Alors bonsoir, je tiens tout de suite à disculper Philippe Biwix du retard considérable accumulé uniquement par ma faute, persuadé que j'étais, tout simplement que c'était à 19h. Hein, c'est-à-dire, alors, je suis certainement assez habitué de mots-là et j'avais tout simplement oublié. Donc, d'habitude, c'eût été grave, puisque nos intervenants parfois retournent à Paris ou en Navarre, mais là, on va pouvoir profiter vraiment d'une heure de discussion tous ensemble avec Philippe Biwix jusqu'à 19h15. Et vous aurez, comme d'habitude, du temps pour poser des questions. Alors, moi, je me présenterai rapidement, comme ça, c'est fait. Je m'appelle Nicolas Patin. Je suis maître de conférence en histoire à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et je ne suis pas spécialiste de ces thématiques-là. Mais il se trouve que j'ai pas mal lu. Donc, on m'a dit, tiens, fais le job. Comme ça, tu arriveras en retard et tu te ridiculiseras. Voilà, donc, c'était pas mal. Donc, la personne qu'on va présenter, c'est Philippe Biwix, qui est ici à ma droite, et qui est ingénieur, sorti de l'école centrale, comme Boris Vian, d'ailleurs, et qui a déjà publié un certain nombre de livres, dont, dans la collection Anthropocène, du Seuil, que vous voyez ici, dont, en 2014, L'âge des low-tech. Pour ceux qui n'aiment pas la langue de Shakespeare, low-tech, c'est les technologies de basse qualité, basse intensité, sobre. Donc, qui s'intitulait en sous-titre « Vers une civilisation technique soutenable ». Et le livre pour lequel on est ici ce soir et sur lequel on va discuter s'intitule, lui, « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire ». Alors, à la base, vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, mais de la raréfaction des métaux. Vous participez à l'Institut Momentum, qui est un institut qui réfléchit sur les questions de décroissance et aussi de collapsologie. Alors la collapsologie, on en parlera peut-être un peu, c'est un mot très récemment à la mode sur la question des sciences, de l'effondrement écologique. Donc comme d'habitude, on va bien rigoler ce soir chez Mola, ça va être bien. Mais ce sous-titre, Les rêveries d'un ingénieur solitaire, il dit beaucoup de choses, puisque vous avez peut-être reconnu la référence à Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire. Et on ne se connaît pas, hein, donc là c'est le moment. Je dis que des choses très sympathiques, mais où j'ai découvert votre livre avec plaisir, parce qu'on y voit non seulement des références très précises et parfois légèrement techniques, mais ça se lit sans problème, de sciences dures, de physique, d'industrialisation, de questions de réseau, de questions d'Internet. Et en même temps, tout ça côtoie des philosophes, des Platons, des Rousseau, de la science-fiction... une sorte d'acquaintance avec un certain nombre d'auteurs russes comme Solzhenitsyn, Paul Valéry, Saint-Exupéry, et même, je dois dire, de l'humour avec une référence à la page 190 à la chocolatine bordelaise. Vous voyez, le panel est assez large.
Et la fontaine des Trois Grâces de la place de la Bourse.
Tout à fait, en photographie dans le livre. Absolument. Alors, pour rentrer dans les thématiques de ce livre, un peu traditionnellement ici à Mola, je vais poser 5 questions auxquelles l'intervenant va répondre, et puis ensuite vous aurez tout loisir de poser vos propres questions. Et pour commencer par le début du livre, qui se scande en fait selon un certain nombre de promenades, de rêveries, qui vont développer un certain nombre de thématiques, il y a cette idée simple qu'à l'heure du tout virtuel, où on est tous en train de scroller sur nos iPhones et de rester devant nos ordinateurs, l'industrie finalement aurait disparu. Et c'est ma première question. Est-ce que cette révolution numérique, à laquelle on participe toutes et tous, au moins une, deux, trois fois par jour, par des objets connectés, par quelque chose, est-ce que finalement elle représente la fin de l'industrie, la fin de la pollution, et que tout, en somme, serait devenu virtuel ?
Alors au contraire, c'est vrai qu'on a un peu cette logique que je trouve d'ailleurs très, très 20e siècle, qui a peut-être démarré un peu dans les années 50, 60 avec des économistes comme Alfred Sauvy, par exemple, ou Schumpeter, qui parle de destruction créatrice avec cette logique de dire finalement on arrive d'une situation industrielle héritée du 19e siècle, la révolution industrielle, le charbon, le fer, l'industrie lourde. On passe ensuite à l'électricité, à l'aviation, etc. Et puis on va découvrir l'électronique et comme ça on va aller vers un monde numérique et du coup de plus en plus virtualisé, effectivement. Et donc depuis les années 70, 80, on a cette un petit peu avec la désindustrialisation d'un certain nombre de pays occidentaux, les États-Unis, un petit peu, enfin en partie les États-Unis, en partie la France, peut-être un peu moins l'Allemagne, qui reste avec le Japon une usine du monde, enfin qui fournit les usines chinoises notamment ou indiennes pour ensuite fabriquer des produits finis pour l'ensemble du monde. On a ce discours lancinant qui consiste à dire qu'on passe dans une économie post-industrielle ou dans une économie dématérialisée et qu'effectivement, d'ailleurs, nos pays sont de plus en plus propres, les pays, j'entends, occidentaux, puisque finalement, on a de moins en moins on a des bonnes normes environnementales par rapport aux autres, par exemple sur les rejets de l'industrie, sur les automobiles, etc. Si vous vous baladez dans les rues de Bordeaux, c'est peut-être désagréable et bruyant, de plus en plus d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément les rues de Mumbai. Donc, il y a toute cette logique de discours de dire, finalement, on va vers des choses de plus en plus, propres, de plus en plus immatérielles. L'industrie électronique, d'ailleurs, est associée un peu à une logique de salle blanche, vous savez, de blouse très propre, tout est parfait. Et en réalité, tout ça est un mythe complet. C'est un mythe complet d'abord parce que on a toujours l'industrie lourde et historique. Alors elle s'est un petit peu déplacée, pas partout. Hein. On a encore des hauts fourneaux en France, on a encore de l'industrie chimique tout à fait historique. Mais une partie effectivement de la production industrielle s'est déplacée. Mais globalement, l'industrie numérique a deux composantes, enfin, a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle s'est empilée sur les industries historiques. Il n'y a pas de remplacement d'une industrie par une autre. On empile toujours les systèmes. Et d'ailleurs, si vous prenez par exemple l'exemple de l'énergie, ce qu'on apprend au collège, je dirais, c'est qu'il y a eu d'abord le charbon, et puis le charbon a été remplacé par le pétrole, et puis le pétrole a été un peu remplacé par le gaz, et puis après le gaz, il y a eu le nucléaire, et puis maintenant, c'est les énergies renouvelables. Ça ne marche pas du tout comme ça. Depuis qu'on a extrait la première tonne de charbon, au XIIIe siècle, en Angleterre, eh bien, chaque année, on a extrait plus de charbon, et on consomme plus de charbon. Et aujourd'hui, on consomme plus de charbon qu'on en consommait au XIXe siècle, largement plus. Donc on n'a fait qu'empiler les choses. Donc d'abord cette logique d'empilement. Puis la deuxième caractéristique, c'est une caractéristique de saleté ou de matérialité, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des industries extrêmement légères d'un point de vue environnemental, sous prétexte qu'elles feraient appel plutôt à une économie de la connaissance et que ce sera plutôt... Il y a plus d'ingénieurs et de techniciens. Au contraire, on est dans un truc très, très... très très massif, très très lourd, extrêmement dépendant des industries historiques, c'est-à-dire que l'industrie numérique, les objets, tous nos objets dématérialisés, qui permettent la dématérialisation, ou la prétendue dématérialisation, sont en fait fabriqués à base d'industries lourdes, de métallurgie, de mines, simplement tout ça est extrait un petit peu partout dans le monde, et donc on a une facture environnementale en réalité qui est très très grande. Donc voilà, en réalité, là où on a peut-être l'impression, où on a un discours d'économiste notamment, ou de prospectiviste sur la logique de dire on va aller, tout va aller de mieux en mieux et tout va être de plus en plus propre, parce que regardez une trajectoire comme la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, alors c'est vrai que quand vous lisez les descriptions de Manchester ou de Liverpool au 19e siècle, on a l'impression qu'effectivement les choses vont mieux. D'ailleurs, dans les années 50, il y a eu le fameux smog, vous savez, qui avait tué un certain nombre de personnes à Londres, qui a mené aux premières lois sur la qualité de l'air. Donc on se dit, ça va quand même mieux, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais en réalité, non, ça va, c'est pas mieux qu'avant, c'est juste que des choses se sont déplacées et qu'on est toujours dans une matérialité énorme et qu'on n'a jamais extrait autant de tous les métaux de ce qu'on appelle la table de Mendeleïev, vous savez, c'est cette soixantaine de métaux différents qu'on utilise dans tous les produits. Et les économistes nous promettent cette dématérialisation, nous promettent ce qu'on appelle le découplage, d'ailleurs. On parle de découplage, c'est-à-dire de dire on va pouvoir continuer à faire de la croissance, mais cette croissance, jusqu'à présent, elle a amené de la consommation d'énergie, de la consommation de ressources, de la consommation d'eau, et des rejets, de la pollution. Vous savez qu'il pleut du plastique, par exemple, maintenant. Au fin fond des Pyrénées, il pleut du plastique tous les jours. Donc l'eau, on savait qu'elle était déjà plus potable, mais en plus, maintenant, on sait qu'elle contient du plastique. Alors pourquoi elle contient du plastique ? Parce que, notamment quand vous roulez sur la route, les pneus s'usent, donc le butadiène des pneus, qui sont du butadiène du caoutchouc, et la peinture routière s'use, et donc ça part dans l'atmosphère et ça retombe en pluie après. Donc on a toute cette pollution-là. Eh bien, au lieu de dire ça va aller de mieux en mieux parce qu'on est dans une trajectoire de découplage, c'est-à-dire qu'on va continuer la croissance, mais on va réussir au contraire à baisser les émissions de gaz à effet de serre, à baisser la pollution, à baisser la consommation de ressources grâce à l'économie circulaire, enfin plein de choses comme ça, on va peut-être en reparler. Eh bien non, en fait, ce truc-là est totalement mythique. C'est une vue de l'esprit, c'est un espoir, c'est une projection, mais qui ne fonctionne pas, puisque quand on regarde réellement les chiffres, eh bien, on n'arrive pas à faire en réalité du découplage, c'est-à-dire qu'on a la courbe de croissance qui est là, effectivement, et la consommation d'énergie, la production de déchets, etc., progresse un petit peu moins vite que la courbe de croissance, donc un léger découplage que les économistes appellent relatif, mais voilà, il ne permet pas d'inverser la tendance comme il le faudrait, puisqu'on est bien à se dire qu'il va falloir diviser par 4, par 6, que sais-je, les émissions de gaz à effet de serre, pour ne prendre que cet exemple-là.
Alors là, évidemment, on rentre directement dans le sujet. Vous savez qu'actuellement, et depuis un certain temps, les thématiques écologiques, notamment liées au réchauffement climatique, elles émergent énormément dans le discours. Donc on laissera peut-être ça pour les questions d'après. Et comme vous le voyez, Philippe Biwix est ingénieur et me rappelle aussi pourquoi j'ai raté ma première S. Mais on comprend aussi...
Pour la table de Mendeleïev.
Oui, assez clairement, oui. Mais dans le livre, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une manière de voir les choses de manière très concrète et quotidienne, en fait, dans votre quotidien à vous. Et du coup, sur cette question d'économie circulaire que vous citez à l'instant... J'ai trouvé ça intéressant dans le livre parce que vous tordez, mais gentiment, pas méchamment, vous tordez le bras ou le cou, peu importe, à un certain nombre de fausses bonnes idées. Le livre, d'ailleurs, se lit un peu comme ça, c'est-à-dire un moment d'espoir, on va en parler juste à l'instant, sur l'économie circulaire, sur le recyclage, puis tout de suite après, une complexification de dire bah non, en fait, cette bonne idée, elle n'est pas aussi bonne que ça. Si on en revient, en prenant ce que vous venez de dire, un exemple très concret. L'ensemble, l'iPhone, je l'ai depuis 6 mois. Avant, j'avais un big phone acheté aux puces à 19 euros. Bon, voilà. Si je veux le recycler, en fait, ce que vous me dites, c'est que même si je le renvoie dans une jolie boîte à Apple, oui, le mec est au courant, c'est bien, à Apple, en réalité, la production, l'idée même que ça peut être recyclé est totalement fausse du fait des métaux rares que ça demande et aussi du fait de l'entropie. C'est-à-dire, même si je crois que vous n'employez pas directement le terme, l'énergie que ça va demander pour fournir un nouvel objet. Alors, le recyclage, je parle de recyclage au sens pas seulement le nôtre, mais global de tout ça, c'est une illusion.
Alors, juste un mot, parce que je me suis fait souvent taper sur les doigts ne confondons pas économie circulaire et recyclage, parce que si vous allez regarder sur l'Institut d'économie circulaire ou les rapports qui ont été faits par des agences étatiques comme l'ADEME, par exemple, il y a vraiment une définition un petit peu plus exhaustive, plus englobante de la question d'économie circulaire qui intègre des questions de sobriété, qui intègre des questions d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire votre téléphone, il n'est pas, vous n'allez pas l'acheter, vous allez seulement le louer, par exemple, et donc moi je vais avoir intérêt, si je suis fabricant, à le faire durer, etc. Économie du partage, enfin il y a plein de notions comme ça derrière sur lesquelles on peut éventuellement revenir. Alors, et ensuite, en bout de course, il y a effectivement ce recyclage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la capacité à faire évoluer les modèles économiques, c'est plutôt la question du recyclage qui apparaît assez souvent sur cette question-là. Donc vous avez raison d'orienter la question là-dessus. Alors, c'est pas que le recyclage... En fait, le recyclage, il est toujours plus ou moins possible. Mais en fait, on a le problème qu'on a... D'abord, il y a une question de quantité de travail qu'on injecte ou pas dans le processus de recyclage. Quand on est sur des objets un petit peu technologiques et compliqués comme celui-là, un truc qui contient une quarantaine de métaux différents, des puces électroniques, plein de choses un peu bizarres, on n'a pas envie d'y mettre beaucoup de main-d'œuvre pour le recycler. En fait, notre monde, depuis 2 siècles ou 3 siècles, il est dans une logique de rechercher de la productivité. Vous savez, on se réjouit toujours des gains de productivité. La productivité, c'est réussir à faire mieux avec moins de travail humain ou autant avec moins de travail humain. Et donc, on mécanise, on invente des machines, etc. Et quand on parle de recyclage, ou d'ailleurs, ça marche un peu pareil avec le traitement des déchets. On essaye au maximum de trier sur les chaînes de vos poubelles vertes, de nos poubelles vertes. J'en ai une aussi. On essaye au maximum de mécaniser, de réduire le travail humain des trieurs. D'abord parce que c'est pas un travail forcément très très sympathique, mais aussi parce que ça permet d'économiser de l'argent. quand vous allez vouloir recycler ça en économisant du travail humain, en fait, vous enlevez la batterie, vous enlevez l'écran et vous broyez. Et après, vous mettez dans un four. Et ce four, vous allez faire un certain nombre de processus de métallurgie qui sont assez proches d'ailleurs de la métallurgie qui permet de traiter les minerais qui sont extraits directement de la croûte terrestre. Et en fait, ces processus-là, eh ben, ils ne vont pas fonctionner très très bien avec le fait qu'une grande partie de ces 40 métaux que contient nos smartphones sont en toute petite quantité. Et en fait, voilà, après, vous allez tout mélanger dans le four, et puis bah, voilà, vous allez récupérer l'or, le cuivre, le platine, quelques trucs qui vont être vraiment de valeur. Donc les meilleures usines, il y en a 5 dans le monde, je crois, peut-être ça a augmenté depuis, mais sont capables de traiter jusqu'à une quinzaine de métaux différents, mais sûrement pas les 40. Et donc, on a ce problème qui est qu'effectivement plus... Alors, on pourrait améliorer un peu le taux de recyclage, mais il faudrait pour ça mettre des gens avec... Il faudrait mettre des chaînes de personnes avec des pinces à épiler, des petits tournevis, des trucs pour... En fait, parce que plus je vais séparer avant de mettre dans le four, et moins je vais créer d'incompatibilité métallurgique en aval. Donc, ça, il n'est pas impossible, d'ailleurs, que les taux de recyclage soient un peu meilleurs, par exemple, en Chine, parce qu'effectivement, ils mettent des gens avec des pinces à épiler et des petits tournevis, de la même manière que le taux de recyclage de plastique à Guatemala City est excellent, puisque tous les plastiques sont ramassés par les petits-enfants aux pieds nus sur la décharge, et donc gagnent leur vie avec ça. Donc, le taux de recyclage plastique est nettement plus élevé que celui qu'on peut avoir chez nous. Je n'ai pas dit que c'était bien, c'est juste factuel. Donc, voilà, plus nos objets seront enrichis en techno, ce qui est quand même le cas, puisqu'on... On est en train de voilà, il y a le smartphone, mais il y a plein d'autres choses. On nous promet un monde des objets connectés, hein, l'internet des objets, qui va faire que voilà, votre frigo va faire les courses tout seul, votre bikini va vous prévenir que il est temps de retourner la viande sur la plage. Ces produits existent déjà, hein, pour information, je n'invente rien. Le distributeur de croquettes pour chat reconnaît votre chat avec une caméra et un logiciel de reconnaissance
faciale. Ça, c'est vraiment très important. Je le note pour lui.
Voilà. Et donc, tout ça, tous ces objets vont s'enrichir en technologie. Hein. De la même manière, on pourrait dire que voilà, la machine à expresso, bah, elle est plus technologique, elle contient de l'électronique, etc., par rapport à la cafetière italienne de ma grand-mère. Et donc, quand on va enrichir, on va rajouter ces ressources rares, on va les mélanger, on va essayer d'en consommer le moins possible. Donc, par définition, on va faire des usages que j'avais appelés dans mon premier bouquin, enfin, l'âge des low-tech, dispersifs ou dissipatifs, si vous voulez. On va les disperser. Et une fois qu'on va recycler, on va physiquement récupérer la ressource, mais en fait, elle est toute mélangée. Et on ne va pas savoir la réutiliser correctement. Donc, quand vous avez une voiture, ça marche pareil. Une voiture, ce n'est pas l'écran et la batterie que vous allez enlever, c'est la batterie aussi, les pneus, les sièges, le pare-brise, et après on broie, on passe au four. C'est la même technique. Et donc, ce que contient votre voiture, c'est-à-dire tous les petits métaux, tous les petits, je sais pas, les moteurs, les câbles de cuivre, tout ça au four électrique. Et comme ça contient majoritairement de l'acier, une voiture au départ, ben en fait, ça va faire un acier, on va le remettre dans le circuit comme de l'acier. Par contre, le cuivre, qui lui est contenu dans l'acier maintenant, qui va d'ailleurs faire un acier de mauvaise qualité, pour ne prendre que cet exemple-là, eh bien, il a été physiquement recyclé. Donc, on est d'ailleurs tout à fait OK par rapport aux normes environnementales, à ce que impose l'Europe ou les États sur le taux de recyclabilité, de recyclage des objets. Mais par contre, on a perdu la ressource parce qu'en fait, on ne saura pas l'utiliser bien. Donc, c'est ce qu'en anglais, on appellerait du downcycling, si vous voulez, au lieu de l'upcycling. C'est-à-dire, on va avoir une dégradation de l'usage avec des bouteilles de plastique, par exemple, vous voyez, que je n'utilise pas parce que elle ne va pas être recyclée en bouteille de plastique, même si Mola la jette bien. Elle va être recyclée en, je sais pas, en composteur à lombric ou en chaise de jardin. Et du coup, en l'an 2200, on aura des chaises de jardin partout, vous voyez, mais parce qu'à force de boire de l'eau dans des bouteilles, et ça, on n'arrive pas à reboucler les cycles, à faire intelligemment ça.
Mais on a déjà un continent de chaises de jardin, donc déjà, ça, c'est déjà pas mal.
Bon, on peut rajouter quelques composteurs, peut-être, mais voilà.
Dedans, pour ouais. Faire joli, hein, pour agrémenter ce continent de plastique. Alors, comme vous le voyez dans les réponses, le livre, à mon avis, est très intéressant parce que on a des réponses très précises en fait sur des sujets qu'on aborde parfois dans les médias, hein, très rapidement, mais où là, le livre fournit une expertise quand même d'un ingénieur sur des sujets techniques. Mais ce que j'ai apprécié, non pas pour ramener ça vers les sciences humaines, parce que j'aime beaucoup justement ce que vous arrivez à faire et que très très peu de gens sont capables de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai mariage entre un amour des sciences dures, je le dis à ma manière, mais et un amour des sciences humaines, Il y a ça dans le livre. Et donc, tout le début est consacré à une réflexion sur les utopies, qui en fait accompagne la modernité. Alors la modernité, vous savez, c'est un gros mot, hein, c'est cette idée que depuis la Renaissance, on est dans un régime, on est dans un quelque chose qui, là je pique ça à Peter Sloterdijk dans son dernier bouquin, hein, qui en fait a arrêté de regarder vers le passé ou vers le présent et qui se projette continuellement dans le futur. C'est d'ailleurs la définition du capitalisme, à investir de l'argent dans le futur. Et vous avez beaucoup de réflexions sur ces utopies comme une forme de nécessité humaine. Vous passez par un certain nombre de philosophes, d'auteurs classiques de l'époque moderne, etc., des Lumières. Et vous montrez qu'en fait, cette utopie, elle est profondément humaine. Elle est perpétuellement là depuis l'époque moderne. Et en fait, moi, ma question, c'était ça. C'est pourquoi il y a cette... C'est une question un peu bête, mais pourquoi il y a cette nécessité de rêver en permanence un futur magique? Mais au-delà de ça, pourquoi les technologies prennent une telle place dans ce rêve depuis 400, 450 ans, depuis que, on va dire, Newcomen a inventé la machine à vapeur en 1725 ou peut-être avant? Pourquoi ce poids des utopies technologiques?
Alors, il y a pas mal de... Là, on sort du coup du domaine du factuel et chacun peut avoir son avis. Alors moi, je me suis entre autres inspiré de quelqu'un qui s'appelle Lewis Mumford, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup écrit sur cette question-là et qui a essayé de comprendre ce que pouvaient être les fondamentaux anthropologiques et qui menaient à ça. Alors lui, il dit l'utopie, quelque part technologique, elle apparaît parce que... Elle apparaît au 19e siècle parce qu'au 19e siècle, finalement, la vie quotidienne de plein de gens... devient plus difficile dans des villes polluées, avec des jobs pas sympas, etc.
82 heures de travail par semaine, voilà. Moi, je trouve ça honnête. Enfin, mais bon.
Et donc, lui, il dit, finalement, ça permet de s'extraire du quotidien. Rêver, ça permet de s'extraire du quotidien, ou de se dire, finalement, moi, c'est un petit peu dur pour moi, mais mes enfants, ça se passera mieux pour eux. Quelque part, on construit sur le sang des générations, les unes après les autres, et puis à un moment, on va s'en sortir. Et je pense que d'ailleurs, si on se projetait aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a cette terreur du déclassement vécue par les classes moyennes, hein, sur le mode « mes enfants vont moins bien vivre que moi, vont avoir plus de mal à se loger, à trouver un job, etc. » Donc il y a cette idée de se projeter dans un... Dans une logique d'un monde meilleur, alors c'est ce qui évidemment donne le titre de l'ouvrage, mais et pas forcément tout à fait nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est le progrès technologique en fait, parce que les promesses d'aujourd'hui, hein, cette espèce de dissonance cognitive absolument incroyable, puisque tous les jours dans les médias, on voit qu'il y a des choses qui vont de moins en moins bien. On a même des gens qui nous prédisent l'effondrement un peu, dans une logique un peu de prophétie apocalyptique. Et puis, effectivement, de manière factuelle, il pleut du plastique, il y a un problème de changement climatique, il y a la pollution globale, il y a plein de choses quand même qui sont désagréables. Il y a aussi des choses qui vont éventuellement un peu mieux, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien si, c'est évidemment. Et puis, tout ça dépend des pays et dépend des classes sociales. Et puis, en même temps, face à cette noirceur un peu des sciences dures, on pourrait dire, de l'écologie, ces études les unes derrière les autres qui tombent sur la biodiversité et autres, sont compensées dans les médias par des annonces fulgurantes de promesses technologiques. Alors c'est Elon Musk ou Jeff Bezos qui nous promettent d'aller faire une conquête galactique. Jeff Bezos, il dit il n'y a pas de problème de population parce qu'on va envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans la galaxie. Mais ces gens-là, ils lèvent des fonds aussi, hein. Ils ne sont pas juste des doux rêveurs. Il y a la promesse techno-esclavagiste, c'est-à-dire finalement, on va plus travailler, mais on aura des robots, des drones, de l'intelligence artificielle qui va travailler pour nous. Alors, ça peut poser des problèmes sociaux éventuellement à un moment, mais on pourrait très bien faire du revenu universel ou des choses comme ça, pour vivre tous un peu de la rente technologique. Et puis, il y a ces rêves d'immortalité qui commencent à apparaître ou à réapparaître avec le transhumanisme, repousser l'âge de la mort, etc. Quand on regarde finalement ces rêves-là, c'est à peu près les mêmes depuis que l'être humain est être humain, parce que finalement, vouloir être immortel comme les dieux, les Grecs y réfléchissaient déjà. Enfin, les esclaves, Platon en parle en disant si j'avais une machine, j'aurais plus besoin de travailler. Il dit pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, il mentionne ce sujet-là. Et puis le désir de puissance, le désir cornucopien, la corne d'abondance, le fait d'avoir tout à disposition. Bon, là aussi, on peut remonter assez loin dans les mythes. Dans les mythes anthropologiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans et hier, à partir du 16e siècle, du 17e siècle, avec la science appliquée, Francis Bacon qui va théoriser ça sur le bonheur du genre humain par la science appliquée. Et puis aujourd'hui, où effectivement il y a ce développement exponentiel incroyable tiré par le numérique, la différence, c'est qu'on se dit que les rêves deviennent accessibles. Parce que finalement, on peut rêver d'immortalité en moins de 2000 avant Jésus-Christ, mais voilà, on ne fait que rêver et on va rester dans le domaine des sciences humaines, si je puis dire. Et là, la différence, c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire « Mais non, moi, je suis capable de le faire et je vais le réaliser. » Donc, c'est cet instant un petit peu étonnant qu'on vit avec finalement des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs qui nous disent « Oui, c'est vrai que la planète ne va pas très bien, etc. » Mais regardez ce qui est devant nous, c'est formidable. Et en fait, on a même plus que des promesses cornucopiennes aujourd'hui, on a des promesses réparatrices. C'est-à-dire qu'on va réussir à prendre en charge la planète par géo-ingénierie, on va faire revivre le mammouth, dont on est à peu près certain maintenant que c'est quand même Homo sapiens qui en est responsable, enfin qui est responsable de sa disparition, pas seulement le changement climatique de l'Holocène. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on croit que c'est possible. Voilà. On se ment et on collectivement imagine que ça serait possible, ou en tout cas on écoute avec des yeux hagards et la bouche un peu ouverte ces bonimenteurs de la technologie, puisque en fait, pour la plupart, ce bonheur-là n'adviendra pas.
Alors là, en écoutant ça, je me dis que je suis abonné en fait aux conférences MOLA hyper déprimantes, puisqu'il y a deux semaines, on avait Michael Fussell sur 1938, récidive, sur à quel point 2018 ressemble à 1938. Mais rassurez-vous, il reste trois questions, et à la fin, on va aborder la question des solutions éventuelles. Mais en vous écoutant sur ces rêves, hein, ce que je trouve assez drôle, c'est un point technique, mais si vous avez déjà vu des vidéos de robots sur Internet, il y a ce qu'on appelle, c'est quelque chose d'assez étrange, il y a ce qu'on appelle la Uncanny Valley, une sorte de vallée, mais une vallée émotionnelle où en fait vous allez trouver un robot qui vous ressemble de plus en plus mignon, de plus en plus mignon, de plus en plus mignon. Puis quand il vous ressemble vraiment, là il y a chez tout être humain, sauf s'il a grandi avec des robots, ce qui peut arriver, mais il y a une peur intense qui se joue. C'est ce qu'on appelle la vallée, je ne vais pas le dire en français, mais Uncanny Valley, un moment de peur face à cette technologie. Et c'est vrai que dans ces utopies dont vous parlez, hein, utopies qui ont été développées par des philosophes, par des ingénieurs, par des écrivains de science-fiction, que vous citez, on en connaît certains, Asimov, Philip K. Dick, vous prenez celui que vous aimez, Wells, dans le XXe siècle, il y a ce moment de fascination, il y a ce moment de peur. Alors pour rentrer vraiment dans la mécanique, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, vous parlez en tant que pour les sciences humaines, des mécanismes qui font qu'on reproduit ces erreurs-là. Parce que si vous pensez que, par exemple, casser ses outils ou jeter son iPhone par terre, c'est vous le premier qui avez eu cette idée-là, dès 1811, en Angleterre, chez les Ludites, qui étaient des ouvriers du textile anglais, on cassait les machines pour lutter contre le progrès technologique. Pourquoi est-ce qu'on oublie ça? Et vous avez des passages où vous nous parlez de ce qu'on appelle les « shifting baselines », encore de l'anglais, ce qui veut dire le décalage des points de référence. Et j'ai trouvé ça très intéressant, pour le dire d'une manière très simple, les sociétés oublient. C'est-à-dire que les mêmes experts du GIEC qui vous disent aujourd'hui c'est très grave parce que depuis 1990, on est à tant de degrés de réchauffement, ont en fait, ils essayent, mais ils ont du mal à reconstituer les données des années 50 par rapport à des gens qui ont du mal à reconstituer... On va y venir après, il y a une question. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ils ont du mal à reconstituer les données précédentes. Donc il y a une forme d'oubli continuel de ce que pourrait être le pire. Et vous dites, ce qui est terrible aussi, c'est qu'on oublie aussi, dans le même temps, ce qui s'est amélioré. Par rapport à la génération de ma grand-mère, que je ne perds jamais une occasion de saluer puisqu'elle va avoir 100 ans, et qui, elle, trouve que quand même les choses vont un peu mieux que quand, quand les Allemands sont arrivés. Ou
c'était le titre d'un livre de Michel Serres, d'ailleurs. Ouais. C'était mieux avant, où justement il disait ceux qui se plaignent aujourd'hui ont qu'à retourner au temps d'Hitler et ils verront bien.
Voilà. Alors, moi, ma question par rapport à ces points de référence, hein, qui, sûrement, dans cette salle-là, on pourrait considérer que quelqu'un va considérer que ça, c'est pire et que ça n'a pas oublié ces cadres de référence-là. Moi, ma question, qui peut-être va avec la dénégation du monsieur au quatrième rang, c'était de dire, mais on commence quand même à avoir des données longitudinales de long terme qui nous permettent de lutter contre cet oubli, de savoir que... pour prendre le dernier bouquin d'Elisabeth Kolberg, dont je vous conseille la lecture, La sixième extinction, les espèces disparaissent pour plus de la moitié. Donc, est-ce que là, on n'est pas, du fait de la prise en compte de la crise écologique, est-ce qu'on n'est pas en train de construire des savoirs qui, justement, vont contre cet oubli et nous permettent de réagir peut-être plus efficacement ?
Alors, juste une petite précision sur la question du changement climatique. Je pense que c'est pas forcément le bon exemple justement sur Shifting Baseline, parce que là, en fait, on peut remonter des données avec, je sais pas, des carottes de glace, de la dendrochronologie, la vitesse à laquelle poussent les arbres, que sais-je. Et là, on arrive à remonter avec des données factuelles sur le fait que ça s'est réchauffé déjà de, je sais pas quoi, un degré, par exemple. Shifting Baseline, c'est donc le décalage du point de référence. À l'origine, c'est un modèle ou un concept qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Daniel Pauly, qui était spécialiste des stocks de poissons. Et d'ailleurs, il y a sa biographie qui vient de sortir tout récemment, que je n'ai pas encore lue, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un personnage qui est par ailleurs très, très attachant, je crois. Et donc, lui, il racontait qu'en fait, c'était... donc, à un moment, on demande aux scientifiques combien de poissons on peut pêcher dans telle ou telle pêcherie en fonction de l'état des stocks à un moment donné. Et donc, ensuite, ces scientifiques se prononcent et ça va donner des quotas de pêche qui sont ou pas suivis par la puissance politique, ça c'est un autre sujet, mais en disant voilà quel est le maximum acceptable dans une pêcherie donnée. Et en fait, ce qu'il a montré, d'ailleurs ensuite, enfin, il a eu cette intuition, et puis derrière, les gens s'en sont emparés, il y a eu des papiers scientifiques assez sympathiques qui sont sortis là-dessus, c'est que finalement, à chaque fois qu'un biologiste, un scientifique rentrait dans la carrière, après avoir terminé sa thèse ou je ne sais pas quoi, bah lui, il prenait l'état des stocks à un moment donné, enfin au moment où il était rentré dans la carrière, comme étant son point de référence. Et que ce n'était pas la même référence que 25 ans avant, quand la génération précédente de chercheurs était rentrée, ou 25 ans après. Et donc on parle aussi de phénomène d'amnésie écologique. C'est une expression qu'on voit passer aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça s'applique... Ça s'applique à déjà tout ce qui est biodiversité, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on a de plus en plus de données, mais tout le monde s'en fout des données, en fait. C'est ça. Enfin, je ne vous ai pas amené mes enfants, mais ils sont pas loin, ils vont me rejoindre, mais on pourra leur poser la question en temps réel, si vous voulez, tout à l'heure, sur le fait qu'il y a moins de papillons qu'il y a 20 ans ou 30 ans à Bordeaux, et encore moins qu'il y a 100 ans, et encore moins qu'il y a 1000 ans, sûrement. Ça ne les fait pas frémir particulièrement, parce qu'eux, ils ont connu un moment où il y avait X papillons par mètre carré, je ne sais pas quoi, au mois de juin. Et donc, en fait, la perception se décale. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, bien sûr, on voit bien que la réalité est en train de se décaler, parce qu'on a vécu une enfance peut-être avec un monde différent. Mais plus on va vieillir, et plus on va être un vieux con. Et moins on va être écouté, pour faire simple. Et donc, en fait, on n'arrive pas à transmettre d'une génération... C'est ça qui est puissant dans ce concept de décalage des points de référence. C'est qu'on peut en parler, mais on n'arrive pas à transmettre une expérience vécue. Et donc, les nouvelles générations... vont un peu repartir de zéro, si je puis dire, avec leurs propres références. Bien sûr, un certain nombre vont pouvoir lire des bouquins anciens, je ne sais pas quoi. Et on voit bien sur la biodiversité, par exemple, tout ce qui sort sur moins 50% d'insectes, moins 70% de je ne sais pas quoi, de chauves-souris et autres. Et à chaque fois, vous reprenez les titres, c'est ces 30 dernières années, ces 20 dernières années, ces 10 dernières années. Donc ça fait très peur, parce que là, moins 70% de chauves-souris en 30 ans. Bon, je ne sais plus si c'est ça, je confonds, mais ce n'est pas grave, c'est dans le bouquin. Mais si je prenais combien il reste d'animaux par rapport à il y a non pas 30, mais il y a 100, ou il y a 1000, ou il y a 10 000, c'est pas moins 30% qu'on a, ou moins 70%, c'est moins 99% qu'on aura fait dans ce cas. Donc il y a bien un décalage. Et effectivement, ce décalage, il fonctionne aussi très bien sur la notion de confort. Hein, donc c'est-à-dire, on se plaint d'avoir des logements étudiants, de ne pas avoir assez de logements étudiants. Ben, moi, quand j'étais étudiant, même dans la prestigieuse école centrale, on était à plusieurs par chambre, on était dans des dortoirs, en classe prépa. Bon, et je n'ai pas l'impression de m'être flagellé quand j'étais petit, enfin, quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, ben non, si je n'ai pas mon petit, je ne sais pas quoi, j'exagère un peu, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même un décalage dans la logique de confort, il y a un décalage dans la taille des véhicules, il y a un décalage dans la manière dont on est équipé, il y a un décalage dans la perception, peut-être, alors pas ici, c'est assez sobre, mais il y a une... À côté de l'obsolescence des objets, il y a une obsolescence des lieux. On refait plus souvent les magasins, on refait plus souvent les restaurants, on refait plus souvent... Il y a une logique de perception comme ça. Donc ça se décale là aussi. Alors c'est gênant et désagréable, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de redécaler dans l'autre sens, on pourrait peut-être se chauffer un peu moins et réenfiler un pull, parce que moi, quand j'étais jeune, il faisait 16 degrés l'hiver dans la maison, on râlait après papa, et puis je sais pas quoi, on voyait le printemps revenir avec plaisir. Et si je dis ça, enfin
c'est la question numéro 6.
Ah bah d'accord, voilà, donc je deviens crypto-communiste Khmer Vert, je sais pas quoi, donc c'est très très dangereux.
C'est écrit dans le livre que vous êtes un Khmer Vert, c'est vous qui l'écrivez.
C'est possible, ouais. C'est parce que j'anticipe les remarques éventuelles. Et alors qu'à l'inverse, il y a aussi décalage de référence sur tout ce qui va moins bien. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui vont, entre guillemets, mieux. C'est-à-dire que moi, j'adore le dentiste, je ne vous donne pas l'adresse, parce que c'est un dentiste bordelais, après, je ne pourrais pas y aller, mais j'ai un super dentiste bordelais avec la radio numérique et tout, génial. J'adore le dentiste des années 2010. Enfin, par rapport au dentiste des années 80, hein, franchement, il n'y a pas de problème, je n'ai pas du tout envie d'y revenir. Mais à l'inverse, il y a des choses qui sont peut-être aussi moins bien. Donc, il y a peut-être une notion de bruit, la notion de saturation peut-être des lieux, la logique un peu portée par la poussée démographique, par l'urbanisation, par l'étalement urbain, on passe plus de temps dans les transports, il y a plus d'embouteillages peut-être, ça dépend des endroits. Mais enfin, donc ça se décale pour le mieux, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Et dans tous les cas, en fait, quoi qu'il arrive, on ne peut pas transmettre ça. On ne peut pas dire, ah bah oui, t'es sur la rocade avec ton fils et ton père, ou ta fille et ta mère, je ne sais pas. Tu peux pas dire, ah bah c'est, ah, on est dans un embouteillage, mais c'est pas grave, il y a 20 ans, c'était encore.
Non,
tout le monde s'en fout. C'est aujourd'hui que se pose la question de l'embouteillage. Voilà. Donc ce phénomène, il est assez puissant. Et je pense que ce que je trouve intéressant, c'est du coup de se dire, quoi qu'il arrive, enfin, il y a un côté, il y a la face sympathique et la face dangereuse. La face sympathique, c'est de se dire, finalement, le bonheur est peut-être bien pour demain quand même. C'est-à-dire que. Il faut arrêter de se dire « passe ton bac avant la fin du monde » et je sais pas quoi, et ça va s'effondrer dans 5 ans. Il va y avoir des trajets de vie, on va tous avoir des trajets de vie. Et puis, franchement, le 19e siècle n'a pas forcément été folichon, le 20e non plus, le 21e ne sera pas particulièrement, mais ça n'empêchera pas. Les jeunes générations pourront quand même s'épanouir. Il y a eu des formidables histoires d'amour pour la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je caricature un peu volontairement, j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Voilà, et ça c'est la côté sympathique, en disant « on va y aller, on peut y aller, il y a plein de choses à faire ». Et puis le côté moins sympathique, c'est de se dire, justement, en regardant un peu le 20e siècle ou le 19e, on peut aller très loin dans le décalage des points de référence, justement. Et on peut aller très, très loin dans l'inconfort, dans l'entassement, dans la difficulté à vivre, que sais-je. Et on continue pourtant à se reproduire, même dans ces conditions-là, le 19e siècle a très bien montré. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée, c'était de dire... Moi, je ne suis pas là pour prédire l'avenir, je ne sais pas prédire l'avenir, mais finalement, le passé me fait plus peur que l'avenir, au sens où je sais jusqu'où l'être humain est capable d'aller dans un certain nombre de circonstances, et voilà, avant de réagir.
Voilà, c'est l'historien qui met son grain de sel. Si vous voulez rigoler, vous pouvez lire La grande transformation de Karl Polanyi pour voir à quoi ça ressemblait l'Angleterre au 19e siècle. Comme dirait le caporal dans Avatar, le merveilleux film, c'était pas un pique-nique. Hein. Donc voilà. Alors peut-être deux petites questions. J'avais promis de l'optimisme. Deux petites questions pour aller tranquillement vers les 10-12 minutes qui vont conclure et puis ensuite vos questions. Face à ces données scientifiques que peu ou prou on connaît quand même, parce qu'il y a une pédagogie, notamment sur la question du réchauffement climatique qui émerge, et plus récemment de la question de la biodiversité, tous et toutes, je pense, à moins d'être des punks, mais j'en vois pas beaucoup, on se pose la question de savoir que faire, comme disait Lénine en 1904. Bon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous prenez à bras le corps, dans un livre qui est très touffu, hein, qui brasse toutes les thématiques, politiques, sociales, technologiques, vous prenez à bras le corps la question de la réponse politique. Et il y a un passage, j'avoue, j'avais jamais pensé à ça, vous dites, on est extrêmement innovant dans les technologies, dans les techniques, dans les fantasmes de bras mécaniques, de trucs connectés. Par contre, l'innovation économique et politique, on sent que ce n'est pas tout à fait ça depuis 2-3 siècles. Hein. C'est-à-dire, même si on prend, on y va, Montesquieu, l'esprit des lois, les différents régimes politiques et le peu de démocratie qu'on nous accorde, ça n'a pas bougé. Et donc, dans cette idée de vous broder un petit peu là-dessus, dans cette question d'effondrement politique, et c'est des questions extrêmement complexes et pour le coup encore moins drôles que tout ce qu'on vient d'aborder, parce que face à la crise écologique, on voit bien qu'il y a une tendance des États à se dire « mais on sait mieux que vous, en fait, parce que les technologies, on peut avoir un contrôle dessus ». Et donc s'ouvrent des voies qui sont déjà débattues depuis un certain nombre d'années, les années 90, André Gortz, d'autres auteurs, sur plus de démocratie dans la gestion des technologies ou au contraire une dictature verte qui nous imposerait. Et vous voyez que vous l'écrivez dans le livre. Vous dites, C'est drôle, le discours sur la Chine. Oh, c'est bien quand même les régimes autoritaires, hein, parce que quand il faut faire des panneaux solaires, c'est quand même vachement mieux que la démocratie. Donc là, peut-être en 5 minutes, même si c'est une gageure, là, je parle des réactions politiques macro, parce qu'ensuite, on verra le micro, ce qu'on peut faire, nous, tout simple citoyen. Mais dans les réactions politiques, vous, comment vous voyez la manière dont est posé le problème par rapport aux technologies, de ce point de vue-là, les moteurs de changement ?
Au fur et à mesure que vous dérouliez la question, je notais pour répondre, et puis à chaque fois, ça perturbait un peu ce que j'avais prévu de dire. Mais en quelques mots, d'abord, sur l'action du « que faire ». En fait, globalement, sur l'ensemble de l'échiquier politique, quel qu'il soit, on est à peu près aligné. C'est-à-dire qu'il y a des désaccords sur on devrait plus ou moins subventionner tel ou tel truc, on devrait recréer de la monnaie et faire un grand emprunt pour faire des énergies renouvelables plus vite ou laisser faire le marché. Il faut sortir ou pas de l'Union européenne, que sais-je, pour exagérer un peu. Mais globalement, il y a à peu près un consensus mou sur le fait que c'est quand même globalement un mélange d'innovation technologique, de prise de conscience salutaire du consommateur éco-citoyen mondial qui va bien jeter dans la bonne poubelle et puis effectivement consommer plus durable et plus bio, voire en faisant un peu de zéro déchet, et d'innovation au sens plutôt entreprise du terme, c'est-à-dire on va faire de l'écologie industrielle comme à Kalundborg au Danemark où on va avoir les déchets des uns seront les ressources des autres et on va faire des choses de plus en plus écosystémiques presque, on parle symbiotique ou que sais-je, il y a plein de termes qui apparaissent comme ça. Globalement, c'est à peu près ça. Moi, ce que je dis, c'est que non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que, un, l'innovation technologique, oui, il y en a, oui, on peut progresser pour recycler tel ou tel truc. Bien sûr qu'il y aura encore de la recherche, des choses comme ça, mais ça ne va pas suffire, parce qu'en fait, il y a toujours des effets pervers dans l'innovation. Les effets pervers, d'abord, c'est qu'on ne peut pas séparer les bons usages des mauvais usages. Bon, ça, on le sait à peu près maintenant. Et d'ailleurs, la technologie n'est jamais neutre, n'est pas neutre. Quand on entend des gens encore en 2019 dire « la technologie est neutre, ça dépend de ce qu'on en fait ». Non, c'est pas une fois qu'elle est là, elle est là, c'est tout. Donc, et on sait qu'on peut avoir des mésusages et des bons usages. Internet, c'est un endroit formidable et c'est un endroit formidablement dangereux aussi. Et puis Oppenheimer, il nous avait fait le coup avec la bombe nucléaire. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec. Donc la technologie a des effets pervers, c'est... Il y a des effets systémiques, c'est-à-dire qu'on croit régler un problème, mais on ne le règle pas de l'autre côté. Je prends juste un exemple, la consommation de métaux rares, je ne sais pas quoi, pour les batteries, les voitures autonomes, les trucs. Il y a bien un endroit, il faut faire des trous, mais ça ne se voit pas ici. Il y a des effets rebonds. À chaque fois qu'il y a de l'efficacité, il y a de l'effet rebond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, que la LGV Paris-Bordeaux n'a pas vidé Mérignac, à ma connaissance. Donc, c'est qu'il y a bien eu un effet rebond. J'installe un transport plus efficace, certes un peu coûteux, je le reconnais. Mais ça crée de la demande en plus, en fait. Il y a des architectes bordelais qui vont répondre à des projets parisiens. Il y a des architectes parisiens qui répondent à des projets bordelais. Et ils vont prendre le TGV.
C'est l'inverse. Ça a vidé Paris qui ensuite est venu envahir.
Ouais, alors après il y a le débat sur le. Non, je crois que c'est. Non, ça. Il y a aussi. Il y a les commuteurs en plus. Voilà. Il y a les deux à la fois. Donc effet systémique, effet rebond fait que du coup il y aura des belles innovations technologiques, il y aura de l'efficacité qui sera apportée. Oui, on peut isoler mieux les bâtiments, etc. Mais quand on isole les bâtiments, si vous isolez une passoire thermique, souvent les gens, ce qu'ils commencent par faire, c'est avoir un peu moins froid. Donc ils vont chauffer un peu plus que. Il n'y aura pas les gains qu'avaient attendu les ingénieurs ou les techniciens qui ont fait le calcul. Voilà. Donc ça, c'est. Donc, faut pas attendre. On peut ne pas le négliger. Il faut y continuer un petit peu, peut-être, de manière mesurée et intelligente. Mais tout viendra pas de la technologie. Après, tout ne viendra pas du consommateur. On voit beaucoup, notamment dans les franges les plus écologistes et les plus sympathiques et les plus engagées, on voit cette logique de dire oui, on va transformer le monde avec nos magasins en vrac et le zéro déchet. J'adore les magasins en froc et le zéro déchet, mais ça ne va juste pas suffire. Ce n'est pas parce que, à chaque fois que je vais faire réparer un téléphone dans un repair café, il y en a 100 000 qui ont été vomis par Foxconn dans la même minute. Donc, le consommateur, il est formidable, mais il ne suffit pas parce qu'en fait, on vit dans une économie. Ça, c'était John Kenneth Galbraith, en 1961, le nouvel état industriel qu'il avait bien montré. On vit dans une économie qui est poussée, en fait. Nos objets sont tellement technologiques et tellement complexes que globalement, il faut des grandes entreprises pour les gérer, y compris des éoliennes, etc. Et puis, La troisième question, c'est la question un peu économique du découplage, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, une fois qu'on a dit ça, comment on s'en sort, si je puis dire? Et c'est là que je rajoute effectivement la question, la fonction politique là-dedans. C'est-à-dire, je pense que ça serait une grave erreur de dépolitiser l'affaire quelque part et de se dire, de toute façon, ça s'effondre, quoi qu'on fasse. Donc, déjà, voilà, partons dans l'Ardèche tous ensemble. Et non, il faut interpeller nos hommes et nos femmes politiques à tous les niveaux parce qu'il y a au contraire plein de choses à faire. Et pourquoi est-ce que j'en appelle alors à l'État, mais pas qu'à l'État, mais à tous les niveaux? Parce que d'abord, forcément, j'ai une déformation un peu jacobine du fait des études que j'ai faites, probablement, que j'ai faites. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a une puissance énorme au niveau de la puissance publique, un pouvoir d'action gigantesque. Je vous en cite 3-4 très simples. Le premier, c'est le pouvoir prescripteur. Ils mettent ce qu'ils veulent dans les cahiers des charges. Si on veut mettre des choses sur des paramètres sur la question de est-ce qu'il y a du travail humain dedans ou pas, est-ce que c'est recyclable ou pas, etc. C'est les cahiers des charges qui peuvent le faire. Et vu la quantité qui est achetée partout à toutes les échelles, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Il y a un pouvoir fiscal. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire réparer votre fer à repasser chez votre dealer de fer à repasser préféré? Parce que quand vous allez l'amener, si tant est que vous l'amenez, enfin, vous tentez de l'amener chez votre dealer de fer à repasser préféré, il va vous dire, mais attendez, ma bonne dame, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf? Parce qu'on a mis toute la fiscalité sur le travail humain, qui donc coûte cher, donc il faut ouvrir, etc., faire le diagnostic, et qu'au contraire, on n'a rien mis sur les ressources. Les ressources sont presque gratuites. L'énergie est presque gratuite, même si je suis désolé pour les gens qui mettent beaucoup d'argent dans le plein de leur voiture et les dépenses contraintes qu'ils peuvent avoir tous les jours là-dessus. Mais globalement, par rapport à ce que ça fournit, c'est incroyable, ça coûte quasiment rien. Dans un smartphone de base, vous avez moins de 2 euros de métaux précieux et rares. L'ensemble de tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, c'est 2 euros. Vous voyez, sur le prix d'un smartphone, vous imaginez bien que c'est pas là qu'est le problème. Il faut mieux le jeter, parce que finalement, pourquoi il coûte si cher? Il y a de la pub, il y a du développement, il y a je sais pas quoi, de l'amortissement des usines et autres, mais il y a aussi de la main d'œuvre, etc. Donc, pouvoir prescripteur, pouvoir fiscal, pouvoir de subvention, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'aujourd'hui on a est-ce qu'on a des décideurs, si je peux dire, qui sont juste techno-fascinés et qui aident des startups à lever de l'argent parce qu'elles font de la blockchain, je ne sais pas quoi, des trucs un peu hype et sympas? Ou est-ce qu'on utilise l'argent public pour je ne sais pas, donner des cours de théâtre, ouvrir des recycleries, ressourceries et des ateliers de réparation de vélos? C'est une question aussi qu'on pourrait se poser. Et puis une question d'exemplarité, de pouvoir d'entraînement. Donc j'ai pris cet exemple un peu stupide et je n'en veux pas du tout aux gens qui font du zéro déchet, bien au contraire, j'adore. Et entre le petit magasin en vrac du bas de la rue Fondaudège qui fait, je ne sais pas, 4 fois par an une formation avec une dizaine de personnes motivées qui viennent pour apprendre à faire leur dentifrice elles-mêmes, formidable, mais par rapport à la région Aquitaine qui dirait je décide de lancer un programme zéro déchet dans tous les lycées, toutes les administrations, tous les bâtiments, toutes les entreprises publiques, tout ce qui dépend de moi, plus les aspects territoriaux, étatiques qui dépendent mais qui sont régionaux, on peut imaginer que le pouvoir d'entraînement et ce qu'on pourrait sortir de ça serait quand même légèrement différent. Voilà. Et donc, cette question-là se pose un peu parce qu'il y a le côté de dire les 10 personnes qui font leur dentifrice elles-mêmes, elles sont formidables, elles sont géniales. C'est un engagement d'ailleurs au quotidien très fort. Mais est-ce que ça peut suffire à entraîner tout le monde ou est-ce qu'à un moment, le coup de pouce un peu de la puissance publique peut venir aider? Donc c'est un appel, on pourrait dire. Alors, sur le coup, oui. Et puis j'avais un dernier point sur l'appel du courage et de l'innovation. Alors oui, c'est Francis Bacon qui, le premier, dans ses écrits, pas dans la Nouvelle Atlantide, mais dans des écrits à côté, recommande chaudement de faire de l'innovation technologique, mais surtout pas de l'innovation politique ou économique, parce que ça met le bordel. Enfin, il le dit pas tout à fait comme ça, mais quasiment. Il dit que c'est générateur de remous dans la société, tout ça, donc il faut surtout pas le faire. Et on voit bien qu'effectivement, c'est très rigolo, parce que dès qu'il y a des gens qui proposent, alors peut-être avec un style un peu bigarré, un peu jaune, éventuellement, ces dernières semaines ou ces derniers mois, en disant, tiens, on pourrait faire le référendum d'initiative citoyenne, on pourrait faire, je sais pas, qui proposent des innovations qui ne sont pas des innovations technologiques, alors là, il y a effectivement une frayeur absolue des personnes. Donc c'est bien la preuve que dans une société qui finalement porte au pinacle l'innovation, hein, on a une société schumpeterienne avec... Quels sont nos nouveaux dieux? Bah, c'est Elon Musk, c'est Steve Jobs, paix à son âme, etc. Parce que voilà, c'est les entrepreneurs innovants à la Joseph Schumpeter. Mais en fait, on n'a en réalité jamais été dans une société aussi peureuse et aussi suiveuse. En réalité, on innove même dans les entreprises. Je peux dire, moi, je travaille dans une entreprise. Hein. Je gagne pas ma vie avec ça, loin de là.
Bientôt.
En fait, nos entreprises, les cadres, innovent la peur au ventre pour la plupart. Ils innovent parce qu'ils ont 40 balais et que derrière, il y en a un qui a 30 qui va le faire à sa place sinon. Ou on innove parce qu'à côté, il y a une entreprise qui va le faire. Là, mais s'ils font de la blockchain, moi, j'en fais pas. J'ai l'air d'un con, il faut y aller. Et c'est tellement plus simple de se planter quand on fait la même chose que les autres, que se planter quand on essaye tout seul. Donc le vrai courage d'innover, en fait, on ne l'a pas forcément. Et effectivement, ce n'est pas forcément de l'innovation technologique, c'est d'autres choses, organisationnelles, sociétales, culturelles et autres.
Ce qui m'amène à ma toute dernière question auxquelles il faudra répondre rapidement pour avoir ensuite la place pour vos questions à vous. Vous l'avez montré, et vous le montrez encore mieux de manière plus détaillée dans le livre, il y a une forme de jeu de dupe où chacune, vous recevez en permanence des messages culpabilisants, comme si le fait que vous laissiez couler la flotte quand vous brossez les dents allait changer la face du monde, alors que vous le montrez, un super tanker ou un petit paquebot qui ne se gare pas comme il faut dans la rade de Venise ou dans celle de Bordeaux, pollue beaucoup plus que le simple citoyen. Malgré tout, et malgré tout ce qu'on vient de dire, qui est très important sur la puissance publique, en tant qu'individu, on se pose la question de comment faire. Et vous avez des pages dans le livre sur la question de la sobriété, c'est-à-dire consommer moins, consommer mieux, mais quand même, dans cette idée de sobriété, il y a l'idée, et vous le dites avec humour, de devenir ce Khmer vert qui va ne plus manger de viande, se déplacer à vélo, etc., en fonction des volontés et des envies personnelles. Simplement, vous le dites, ça ferme le livre. Comment on transforme ça en utopie? Depuis des années, la décroissance, avec beaucoup d'auteurs, Serge Latouche, Pierre Rabhi, qui vous voulez, développe cette idée qu'il faudrait faire moins, consommer moins. Comment est-ce qu'on transforme ça en utopie désirable? Vous avez 2 minutes. C'est bien ça, non?
Ouais, c'est bien. Non, mais surtout, je ne vais pas faire de la publicité mensongère parce que je ne le dis pas.
Est-ce que c'est possible?
En fait, ce que je dis dans le bouquin, c'est que... dans la fin du bouquin, c'est qu'il semble que c'est un peu mortifère de se promener seulement entre deux types de réflexions. Une réflexion qui serait effectivement les utopies à l'ancienne, si je puis dire, c'est-à-dire tout va aller de mieux en mieux, Madame la Marquise, et finalement, bah, ça sera un mélange de... J'avais beaucoup aimé, moi, Bertrand Méheux, la politique de l'oxymore. Hein, c'est vraiment... Bah, on va continuer à artificialiser les sols, mais ça s'appellera toujours des éco-quartiers, les voitures sont forcément propres, etc. Et en fait, on verra les trucs qui vont se déliter un peu, mais... Shifting baseline, décalage du point de référence, c'est pas grave parce que ça va pas trop se voir finalement au fur et à mesure. Sauf
quartier Ginko.
Sauf si on devient immortel, alors là ça finit par se voir. Mais tant qu'on n'est pas immortel, il n'y a pas de problème.
Je fais des blagues de trop.
Voilà. Oui, j'ai bien compris. Bon, d'un côté on a ça, puis d'autre côté on a ça va s'effondrer. Et puis si ça ne s'effondre pas, 20 ans plus tard, on verra ce que ça donne. Mais depuis les années 50, on raconte que ça va s'effondrer. Donc il faut faire très attention parce que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu et qu'il y a des ressources quelque part aussi. Il ne faut pas négliger les réelles ressources d'inventivité de l'être humain et du système capitaliste. Il l'a déjà montré à de nombreuses reprises. Donc moi je dis juste ça serait bien d'avoir quelque chose dans l'entre-deux parce qu'effectivement nous sommes des rêveurs, tout le monde a envie de rêver, moi je rêve aussi à plein de choses et il faut essayer de se projeter dans quelque chose, et si on se projette juste sur d'un côté la terraformation de Mars et puis de l'autre côté sur les hordes de Parisiens jetés dans les rues, enfin non, dans les campagnes, 36 heures je crois, ou je sais plus, ou 72 heures après que les camions soient arrêtés, parce que vous savez qu'à Paris, ils n'ont pas beaucoup de stock dans les supermarchés, mais enfin je crois que nous non plus. Et qu'il va falloir les attendre soit de manière super sympathique en disant on va faire de l'entraide, l'être humain est coopératif, soit avec les fusils survivalistes, il y a les deux options possibles. Voilà, il me semble que ça serait bien d'avoir une espèce de une troisième voie qui soit un peu plus porteuse de concret, de réalisation possible et du fait qu'on peut encore agir, faire encore des choses. Et c'est Schumpeter qui disait face à un bateau, face à l'annonce d'un bateau qui est en train de couler, l'équipage peut s'asseoir et boire un coup ou bien courir aux pompes, quoi. Hein, donc pour reprendre un peu cette finalement une image qui a été reprise par Nicolas Hulot après sur le Titanic. Voilà, donc j'ai pas la solution sur la question de la désirabilité de ce qu'il faudrait faire. Alors on n'est pas obligé de devenir tous véganes tout de suite, mais déjà devenir flexivore, manger un peu moins de viande, ça permet plein de choses. On n'est pas obligé de tous être à vélo, on sait bien que c'est compliqué, mais on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, ça c'est un cas où la puissance publique pourrait tout à fait agir, de dire je remets une vignette, qui est une vignette au poids et à la puissance des véhicules, et du coup ça incite fiscalement à revenir à des voitures de plus en plus petites. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a cet effet rebond. Les voitures sont de plus en plus efficaces au niveau de la motorisation. C'est encore vrai. Il y a plein d'ingénieurs qui travaillent à ça. Mais comme elles sont de plus en plus lourdes, en fait, elles émettent de plus en plus de CO2 quand même. Donc le mix de voitures qui est vendu chaque année a commencé à augmenter. Donc là, on pourrait tout à fait imaginer d'aller vers des voitures de plus en plus petites. Et bon, finalement, la perte de confort entre le char d'assaut de 1 tonne 8 et puis la 4L ou la 2 chevaux pour ceux qui l'ont connu, peut-être au premier rang. Bon, peut-être finalement la fonctionnalité de se déplacer. Mais moi j'ai connu aussi, donc je dis pas ça. Non, pas du tout. Je suis monté dans une 4L, je suis monté dans une 2 chevaux. Donc soyons clairs là-dessus, je me rapproche avec vous de. Voilà. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres aspects de la désirabilité. Il y a la question de l'emploi, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, cette croissance formidable qui était censée être la croissance, c'est l'emploi. Donc en fait, non, c'est peut-être un petit peu en train de se décorréler avec ces histoires d'intelligence artificielle, de robots et autres. Donc est-ce qu'on veut un monde du plein emploi qui serait tout à fait atteignable, en exagérant, en plaisantant un peu, Keynes disait, vous pouvez mettre un tractopelle ou mettre 30 personnes à creuser une tranchée, c'est un choix. Alors peut-être que si on mettait que des personnes à creuser les tranchées, il ne faut peut-être pas commencer par ça, il y a des questions de pénibilité, mais et puis on ferait moins de tranchées, ça c'est sûr. Les rues de Bordeaux ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, donc il y a plein de paramètres sur lesquels finalement on voit bien ce qu'on a gagné. Donc nous sommes tous d'une certaine manière un petit peu... on se réfrène sur le... c'est toujours le truc un peu de dire oulala, la sobriété, la frugalité, c'est le retour au temps troglodytique, l'âge de la caverne, la bougie, le truc, les visiteurs, et on s'arrache les dents avec les poignées de porte. Bon. Mais on voit pas ce qu'on a perdu, justement, sur la question de la sérénité, peut-être, le rapport au temps, la question de l'accélération. Et donc, d'essayer de voir comment on pourrait ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ou séparer le grain de l'ivraie, on peut employer l'expression qu'on veut, pour garder quelques trucs sympathiques, fort sympathiques, que nous ont amené la connaissance, la technologie, la science, mais s'affranchir d'un certain nombre de fioritures autour qui finalement ne nous apportent pas beaucoup de bonheur.
Un grand merci et des applaudissements pour Philippe Biwix.